Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'une jeune femme qui a eu un véritable coup de foudre, une véritable révélation pour le patrimoine marocain et qui a décidé complètement de changer de cap de vie et de prendre soin de ce patrimoine, de le nourrir et de le protéger. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Kenza Benani, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Kenza?
Ça va très bien, merci. Ça va, mais en tout cas, merci de m'avoir invitée.
Alors, Kenza,
merci d'être avec vous.
Ah, merci beaucoup, moi aussi. Alors, qu'est-ce qui a pu ramener la jeune femme que vous êtes, qui a voyagé un petit peu partout, qui a vécu un peu partout aussi, qu'est-ce qui a ramené la jeune femme que vous êtes à la vieille Médina de Tanger?
Bah écoutez, des choses qui m'ont paru évidentes, en fait, à la base, je n'étais pas censée vraiment rentrer, c'est pas mon plan pour rester. L'idée, c'était de mettre en place une équipe et de repartir à Londres. Mais en étant à Tanger, je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait une magnifique opportunité de construire quelque chose, parce que bah, c'est l'industrie dans laquelle je suis née. C'est une industrie naissante. Et donc, je me suis rendu compte que le rôle à jouer sur le plan créatif, sur le plan culturel, était un rôle beaucoup plus intéressant que celui que je pouvais jouer à l'étranger. Et donc, c'est un petit peu par amour de l'artisanat, des savoir-faire marocains que j'ai décidé de rester.
Alors, voilà. Donc vous, en fait, vous avez fait des études de mode en Espagne, à Madrid.
Oui, exactement.
Ensuite, vous avez démarré votre carrière... à Londres, c'est ça?
Je l'ai démarré plutôt dans le cinéma, quelques années avant.
Ouais.
Donc j'ai fait plusieurs coproductions entre Londres, Madrid, le Maroc aussi. J'ai travaillé dans plusieurs endroits avant de partir m'installer à Londres définitivement et faire un changement de cap beaucoup plus mode.
C'est ça. Définitivement, c'est ce que vous croyez au départ, que ça allait être
voilà,
définitif.
En tout cas, j'étais très bien là-bas. Et
ouais.
Je me disais, ça y est, je suis bien, je suis chez moi. Voilà, jusqu'à ce qu'on monte un projet en relation avec l'artisanat. Et là, c'était évident qu'il fallait être sur place.
Oui. Alors, ce projet, il s'agit de quoi exactement?
Alors, c'est un projet qui est né d'une volonté de valoriser les savoir-faire artisanaux marocains dans la vision de les sortir du contexte folklorique, du contexte... disons, de l'attente que l'Occident a de la création marocaine ou orientale, entre guillemets. Et donc, l'idée, c'était de reprendre un peu les classiques de nos savoir-faire et de les mettre au goût du jour pour qu'on puisse aussi motiver une clientèle plus moderne à s'engager sur des achats de produits locaux qui soient vraiment bien faits, qui soient dans une démarche contemporaine, une démarche de design, et qui ne reste pas juste dans l'écran du folklore, du souk, du souvenir. Voilà, donc c'était un peu ça la démarche du début. Et donc on a commencé avec une ligne de maroquinerie. Je venais de plusieurs grandes entreprises occidentales qui sont dans l'accessoire de luxe. Et donc j'ai commencé par une ligne de maroquinerie qu'on a lancée en 2014.
Alors, est-ce que les gens, vous voyez un petit peu comme celle, entre guillemets, l'opportuniste qui vient saisir le patrimoine et se faire de l'argent sur le dos du patrimoine?
Non, absolument pas. Au contraire, pour nous, l'idée, c'est au contraire se dire, on part du savoir-faire. Pour nous, déjà, l'artisan n'est pas un sous-traitant.
Ouais.
C'est un collaborateur. Donc, c'est un collaborateur qui, pour nous, notre process de design part du savoir-faire. On ne va pas chez l'artisan en disant « fais-moi ci ». C'est plutôt « qu'est-ce que tu sais faire ?» De là, on va l'adapter à quelque chose de vraiment moderne et contemporain qui va susciter un désir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir des vrais produits qui vont faire partie de la vie des gens et qui vont justifier aussi des prix plus élevés, qui vont par la suite justifier une rémunération plus intéressante pour les artisans, qui va aussi justifier, qui va permettre à la jeune génération de vouloir apprendre, parce qu'il faut se dire aussi qu'il y a beaucoup de savoir-faire qui sont en train de se perdre, parce que la jeune génération ne veut pas apprendre les savoir-faire. Et ce n'est qu'à travers une réinterprétation et une vraie synergie entre le design et l'aspect technique, donc les savoir-faire, qu'on peut arriver à faire des choses qui vont vraiment s'inscrire dans la vie des gens, qui vont pas juste être des souvenirs que les gens vont se dire « Ah, je vais prendre ça », ou là, qui vont rester que pour la grande occasion, le mariage, là, on est sur une ligne de prêt-à-porter. Et la réflexion, c'est de dire pourquoi le caftan ne peut pas être porté dans le quotidien. Pourquoi on peut pas aller faire ses courses en caftan, sans work, sans le côté ornemental. En fait, c'est ne pas réduire notre avis traditionnel qu'à l'ornement. Donc, on est beaucoup plus sur la forme, sur la fonction, sur des matières nobles, sur des finitions bien faites, surtout qui est fait à la main, et surtout sur des produits durables qui vont pouvoir durer dans le temps. Donc, nous, par exemple, notre clientèle, aujourd'hui, elle est principalement marocaine, mais c'est pas du tout une clientèle qui marchande, parce qu'elle voit, la qualité. Ouais. Je pense qu'il faut pas sous-estimer le client aussi. Il y a une clientèle qui vraiment cherche à acheter des choses qui sont belles, bien faites, qui vont durer dans le temps. Et cette clientèle-là, elle trouve pas forcément grand-chose. Parce que tout le monde est dans cette démarche. Et notamment cette démarche dont vous parliez, qui est une démarche d'exploiter l'artisanat et de gagner de l'argent sur le dos des artisans, c'est souvent une démarche occidentale. Et bon, c'est sain de faire des marches parce que il faut bien gagner sa vie et faire du business, mais il y a un entre-deux. Et je pense que, en tout cas pour nous, c'est très important qu'il y ait de la valeur ajoutée et pour le client, et pour l'artisan, et pour nous. Pas que pour nous. Nous, on veut mettre le design au service de l'artisanat et que ce soit vraiment une synergie, une collaboration.
Alors c'est vraiment un patrimoine qui est en train d'être sauvegardé de cette manière et souvent une tradition féminine.
Oui, absolument, absolument. Bon, comme vous devez le savoir, l'artisanat marocain, il est assez structuré dans le sens où il y a des savoir-faire masculins, des savoir-faire féminins, qui sont souvent liés au mode de vie, à comment. Et ce qui est super, c'est que par exemple, on arrive à travailler avec des femmes qui travaillent chez eux, qui sont en train de gérer aussi des enfants, qui sont en train de gérer d'autres choses. Et je pense que c'est là où il y a une réelle opportunité pour le Maroc, c'est de se dire, on n'est pas obligé de faire comme l'Occident. On peut trouver des business models qui vont vraiment s'adapter à notre culture, à notre timing, à plein de contextes différents dont on a vraiment besoin. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. C'est pour ça d'ailleurs que je suis restée.
Alors justement, rester au Maroc, la prise de décision, la décision s'est faite comment en fait ? Il y a eu cette prise de conscience que le projet ne pouvait pas monter à distance, mais le fait de se dire « Ok, stop, j'arrête ma carrière de l'autre côté, je ne vais pas bosser avec les grands noms, mais je vais lancer mon grand nom. »
Bah écoutez, ça s'est fait de manière organique, parce que je suis rentrée dans un premier temps, la marque, je l'ai montée à Londres déjà. Donc l'idée, c'était de repartir, d'avoir ici l'équipe de production, de repartir là-bas pour faire tout le reste. Et c'est en fait en me rendant compte qu'il y avait une vraie clientèle locale, que justement que les Marocains veulent consommer du local et du local de qualité, qu'ils ont vraiment besoin, qu'ils trouvent pas des choses vraiment bien faites, et qu'ils en ont aussi marre de ce côté orientaliste ou ce côté exploitation de l'artisanat. Et du coup, ben, je me suis dit, il faut honorer ça. Il faut honorer cette clientèle. La presse a voulu en parler très vite. On a eu des clients très intéressants très vite. Et du coup, on s'est dit, bon, ça serait vraiment pas intelligent de repartir. C'était plus facile pour moi de vivre là-bas, sur le plan personnel.
Oui.
Mais sur le plan professionnel, pour moi, c'est ce que je peux faire ici, je peux le faire nulle part. Parce que c'est une légitimité, parce que je suis marocaine et parce que c'est important que les Marocains fassent des choses pour leur pays, je pense.
C'était difficile, c'était plus facile de l'autre côté, pourquoi ?
Sur le plan personnel ?
Oui.
Pour une femme, c'est plus simple à l'étranger. On a des libertés personnelles, des choses qui sont clairement plus faciles à vivre dans le quotidien.
C'est toujours le cas ? Vous avez toujours ce ressenti ? Vous êtes rentrée depuis pratiquement quoi, 10 ans ?
Non, ça fait maintenant 8 ans.
8 ans.
8 ans, ouais.
Toujours la même perception ? Que c'est plus facile pour une femme de l'autre côté ?
Oui. Oui, c'est quand même une réalité. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver son cocon, trouver son monde, trouver son univers et se sentir bien. Donc, je suis très bien, Omar. Je suis très, très heureuse d'être là. Mais voilà, c'était une transition compliquée au début, c'est sûr.
Alors, une transition compliquée. Pourquoi je vous pose la question autour de ça ? Parce que c'est aussi, ce rendez-vous, c'est aussi un partage d'expériences personnelles et humaines. Donc, bien oui, sûr. Vous êtes venu monter votre projet de rêve. Vous êtes revenu à votre ville natale et pourtant, la réadaptation a été compliquée.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Elle a été compliquée. J'ai passé 15 ans à l'étranger. Déjà, mon métier repose énormément sur l'inspiration, sur nourrir, sur le plan culturel, artistique. On en est au Maroc, c'est des industries vraiment naissantes. Donc, on est à court de beaucoup de choses. Ça commence à bien bouger, mais disons que voilà, c'était quand même un choc au début. C'était un choc à plusieurs niveaux. Il y a des choses qui m'ont choqué dans le bon sens et d'autres pas dans le mauvais. Et ça a pris du temps de se réadapter, d'essayer de trouver sa place dans tout ça et de trouver un équilibre.
Alors professionnellement, qu'est-ce qui a été le plus compliqué au départ ?
Je pense que professionnellement, ce qui est le plus compliqué, et je pense que c'est toujours le cas, c'est les mentalités sur l'entrepreneuriat, par exemple. Je pense que l'entrepreneuriat au Maroc est très compliqué quand on commence pas avec des méga budgets, l'accès au financement, tout ce qui est structurel, les douanes, les choses, pouvoir exporter, c'est assez complexe. Pour nous, la configuration d'un jeune entrepreneur qui commence avec vraiment peu de budget et qui a une vraie valeur ajoutée, c'est très compliqué de voir ça vraiment évoluer au rythme où on aimerait que ça évolue. C'est le plus dur. C'était le plus dur au début. C'est toujours compliqué. C'est pas quelque chose qui... C'est en train d'évoluer. Je pense qu'il y a des prises de conscience qui se sont faites. Mais ça reste quand même compliqué d'être entrepreneur au Maroc. C'est pas facile.
Alors, à l'heure où on parle justement de e-commerce, etc., est-ce que ça avance dans ce sens ?
Oui, ils essayent. Je pense qu'il y a une volonté d'essayer d'aller dans ce sens. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ça reste très compliqué sur le plan pratique, réel. C'est compliqué. On n'a pas les mêmes avantages qu'ont les jeunes marques dans d'autres pays. Mais bon, on s'en sort. On fait ce qu'on peut.
Alors, vous avez choisi le créneau de la tradition, de l'art, ce qu'on appelle l'artisanat. Mais vous appelez pas ça aujourd'hui. Pour vous, ce n'est pas de l'artisanat ce que vous faites, si ?
Écoutez, l'artisanat est un mot qui a été tellement utilisé dans différents contextes que si, bien sûr que c'est de l'artisanat. C'est des savoir-faire, c'est un héritage, c'est surtout des métiers d'art. Après, un artisanat, il peut être vraiment, selon le degré d'expertise, il peut être vraiment élevé. Donc, ça dépend vraiment du malhomme ou de la malma à qui on a affaire. Et c'est là où vraiment on se rend compte des merveilles que ça fait, qui font partie de notre patrimoine. Et qui, si on n'en prend pas soin, si on n'en fait pas des choses modernes, elles vont se perdre.
Pourquoi je posais la question ? Parce qu'on n'arrive pas à ce domaine par hasard. Si on n'a pas baigné, grandi dans cet amour du patrimoine.
Oui, ça c'est sûr que ça vient de l'enfance, ça vient de ma grand-mère, de ma mère, ça vient de l'amour des belles choses, tout simplement. Et puis ça vient aussi de j'ai passé quand même beaucoup d'années dans des grandes maisons qui justement valorisent les savoir-faire, et j'ai vraiment constaté le lien avec l'artisanat. Je l'ai réalisé quand j'étais en Italie, parce que je travaillais pour une grande marque de souliers de maroquinerie, et j'ai passé quelques temps dans leur dans leur atelier en Italie, à Florence. Et là, j'ai eu la chance de voir une vraie passation de savoir-faire, une vraie transmission entre les maîtres artisans et toute la structure industrielle italienne qui aujourd'hui sous-traite les modèles de toutes les grandes marques françaises, anglaises, américaines. Du coup, je me suis dit, mais eux, les Italiens, ils ont trouvé un vrai business model qui leur permet de passer, de faire cette passation. Et on se rend compte, parce que moi, avant ça, j'étais à Londres, j'étais dans un bureau de style, on faisait des dessins, on envoyait, on recevait un proto, on ne comprenait pas, en fait, le process. Et quand j'étais en Italie, j'ai passé 6 mois dans l'atelier. Et là, je me suis dit, mais en fait, tout le luxe qu'on connaît aujourd'hui, toutes les grandes marques, repose sur de l'artisanat. Repose sur des savoir-faire. Et sans ces grands maîtres-là qui peuvent interpréter un dessin ou une idée, on n'a pas de luxe, on n'a pas de beaux produits, les beaux produits qu'on connaît aujourd'hui. Et là, je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire. Mmh. Pas possible qu'au Maroc, on sache faire tellement de belles choses et qu'on soit coincé dans la même démarche de faire tout le temps les mêmes captants pour des mariages ou de faire tout le temps des trucs pour le soc, pour le souvenir, pour le folklore.
Mais moi, ça me rappelle une discussion que j'ai eue récemment avec Montasser, mon confrère, qui fait l'émission Ouled Bledi. Et lui, il part à la rencontre, justement, sur le terrain. Il fait un podcast sur les arts et métiers. Et donc, il rencontre des artisans. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de savoir-faire est vraiment en voie de déperdition parce qu'il a rencontré les derniers pratiquants de ce savoir-faire. Et ça, à vous entendre dire que justement, tout ce qu'on voit, tout ce fameux luxe que l'on voit défiler sur Instagram et autres, eh ben, son origine, son ADN initial, c'est le savoir-faire artisanal, des compétences de différents pays, de personnes plutôt simples qui vont venir exécuter un prototype. C'est dommage que nous, on ne prenne pas soin de ce savoir-faire, de ce patrimoine, qu'on n'ait pas d'école.
C'est exactement ça. Moi, je pense que la vraie solution au Maroc, ce serait d'avoir une espèce de Bauhaus avec cette vraie mentalité de partir des savoir-faire et d'emmener l'artisan vers une réflexion aussi. C'est de l'accompagner sur une réflexion de pourquoi moi je vais faire exactement le même cendrier que le monsieur d'à côté. Chacun va faire va utiliser la même technique, mais on va en faire des choses différentes. Ça, c'est vraiment sur le plan de la réflexion que ça doit se faire, et ça doit être une volonté institutionnelle, ça doit être une volonté nationale. On doit comprendre ça sur le fond et pas juste sur la forme. Je pense que ça, c'est une vraie stratégie à mettre en place. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que oui, il y a des artisans qui sont en train il y a des savoir-faire qui sont en train de se perdre, ce qui est vraiment, moi, ça me brise le cœur déjà. Et puis, moi, c'est pour ça qu'en quelque sorte, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je sens vraiment que c'est une espèce de mission qu'il faille créer des choses pour que justement on se dise, mais on peut en faire autre chose de notre artisanat. On n'est pas obligé de rester coincé dans cette vision. Et ça, je pense, c'est aussi lié au fait que pendant une période, au Maroc, il y a eu une stratégie de créer principalement une main-d'œuvre à basse valeur pour la sous-traitance, pour la fast fashion, qui n'est même pas bon pour la planète, pour les gros groupes espagnols, tout ça. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que c'est un système qui marche pas, qui est pas bon pour l'écologie, pour le bien-être social. Et il y a maintenant une prise de conscience, même en Europe. En Europe, d'ailleurs, ils ont perdu tout leur savoir-faire. Aujourd'hui, les savoir-faire européens sont devenus des choses pour les méga, méga riches. Alors que chez nous, c'est encore vivant. Tout le monde a quelque chose de fait main chez lui. Donc je pense que là, elle est là, l'opportunité. C'est qu'on n'est pas obligé de faire comme les Européens, de tout perdre pour après faire machine arrière en courant.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Kenza Benani ?
On aimerait vraiment être en mesure de toucher plus de monde au Maroc et en dehors du Maroc. Voilà. Mais que justement, l'artisanat change un petit peu de perception, qu'on ne le voit plus des mêmes yeux, qu'on le valorise et qu'on porte aussi des choses moins conditionnée par les attentes qu'à l'Occident de nous.
Ben, Kenza Benani, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci à vous. Merci de m'avoir accueillie. C'était vraiment très agréable de discuter avec vous. Merci beaucoup.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très bonne suite des programmes à toutes et à tous.